Merci à tous d'être là. Ça fait plusieurs années qu'on officie à l'Université Populaire, mais c'est une première pour nous au TNP. On inaugure, on est Vincent Daubin et Eric Tanier, on est tous les deux chercheurs dans un laboratoire de l'Université de Lyon, un laboratoire de biologie. Effectivement, voilà, on a inventé un nouveau nom pour ce qu'on fait à l'Université Populaire, qui s'appelle la biologie critique, et qui veut dire qu'on y parle de science, mais avec toujours d'autres dimensions. Alors, on n'y parle jamais vraiment de science sans parler des gens et des environnements qui font les résultats scientifiques, ce qui rajoute des dimensions soit sociologique, soit psychologique, soit historique à la présentation des résultats scientifiques. Et on pense que on apprend beaucoup de choses en faisant ça, que un résultat scientifique gagne en compréhension à être présenté de cette façon-là. Et puis voilà, c'est un petit peu le credo qu'on a adopté ici. Et on essaie de se mouler aussi un petit peu dans le thème général de l'Université Populaire. Et cette année, comme c'était la crise, on a essayé de voir si la crise, c'était un concept utile pour parler de l'histoire du vivant. On espère que oui, pour trois raisons qui vont être développées pendant les trois séance. Alors la première, c'est la théorie catastrophiste, parce que les crises ou les catastrophes ou les cataclysmes sont passages de l'histoire du vivant qui sont utilisés ou non dans les histoires du vivant selon les modes et selon les modes de pensée des gens qui écrivent cette histoire-là. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Alors, et puis on va aussi présenter l'histoire des catastrophes jusqu'à la catastrophe de l'histoire du vivant qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ensuite, on aime bien aussi faire des petits parallèles entre l'histoire du monde vivant, donc qui s'écrit sur une très longue échelle depuis plus de 4 milliards d'années, et l'histoire des sciences, l'histoire des gens qui écrivent cette histoire du vivant. Et c'est ce qu'on va faire dans la séance suivante, en tentant de regarder la révolution scientifique darwinienne, ce qui est souvent présenté comme la grande révolution de la biologie, l'invention de la théorie de l'évolution, qui crée une base sur laquelle on travaille toujours aujourd'hui. Et on va voir si cette révolution, ou au moins si cette histoire de la théorie de l'évolution peut être décrite sans Darwin, c'est-à-dire d'écrire une histoire qui peut se passer de révolution ou pas, voir si vraiment l'apport d'un génie de la science a été primordial à ce point-là, si vraiment le monde a été révolutionné du jour au lendemain à la suite de cette découverte-là. Alors on parlera de la découverte de Darwin, et on parlera de la révolution qui est associée, et puis on essaiera de mettre cette révolution en question. Et puis finalement on passera à l'époque actuelle. Cette théorie est régulièrement attaquée, régulièrement remise en question. Il y a beaucoup de chercheurs qui appellent une nouvelle théorie de l'évolution, et puis on va voir ce que ça... Enfin, voilà, ouais. En tout cas, on entend ça de temps en temps. Voilà, et on va voir à quel point la théorie de l'évolution a besoin, aujourd'hui ou non, de faire sa révolution. L'histoire d'aujourd'hui, elle commence au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. C'est celui que vous voyez là. Et elle commence là parce que l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est un petit peu une histoire d'une controverse scientifique qui parcourt les âges. Alors l'histoire commence à une certaine époque, mais ça va beaucoup bouger. Puis avec l'exposé de Vincent, ça va beaucoup bouger aussi dans une échelle beaucoup plus ancienne. Ici, il s'agit de 1981 pour cette controverse-là. En 1981, le Muséum d'histoire naturelle de Londres a fêté ses 100 ans et à l'occasion de cet anniversaire, il a été organisé une exposition sur Darwin. Et un professeur anglais de paléontologie qui s'appelait Beverly Halstead, qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui était connu à l'époque principalement pour son opposition à. Alors, c'était un paléontologue spécialisé sur les dinosaures, et il était connu pour son opposition à la théorie qui attribuait la disparition des dinosaures à une météorite. Il était convaincu que la disparition des dinosaures n'était pas due à une catastrophe, qu'elle était graduelle, qu'elle était progressive. Dans les années 80, déjà, la théorie de la météorite était en vogue. Lui, il s'y est opposé jusqu'au bout. Et lors de cette exposition, qui ne parlait pas de cette météorite-là, mais ça a un rapport, il est tombé sur deux choses qui l'ont scandalisé et qui l'ont fait écrire un article dans la revue Nature en 81, qui s'appelait Le musée des erreurs. Et en cause, les exposants au musée promeuvaient, selon lui, ce qu'il appelait la cladistique, la méthode cladistique. Et pour lui, c'était une grossière erreur qui conduisait à une propagande quasi stalinienne et qu'il s'agissait de combattre. Alors, j'ai essayé de vous expliquer durant ce court exposé comment son type de raisonnement et qu'est-ce que ça invoque comme débat dans l'histoire des sciences, de passer de cette méthode cladistique au stalinisme. Ouais. La cladistique, c'est une méthode de classification des espèces. A priori, c'est anodin. Et ça classe entre elles, ensemble, plusieurs espèces selon des critères évolutifs. Alors, si elles ont un ancêtre commun et que les autres espèces qui ne sont pas dans cet ensemble-là, qu'on appelle un clade, ne partagent pas cet ancêtre commun. Alors, ici, vous voyez une représentation de l'évolution de certains vertébrés. Des espèces actuelles et des espèces éteintes. Et l'arbre qu'il y a dessous, donc les relations entre espèces, veulent dire que c'est un arbre progressif. Les nœuds en bas de l'arbre sont les ancêtres communs aux espèces qui sont en haut de l'arbre. Et donc un clade, ici, c'est tous les descendants d'un même nœud. Voilà, par exemple, celui-là. Alors, par exemple, les oiseaux et Archéoptéryx forment un clade. Les mammifères forment un clade de l'autre côté. Par contre, il y a certains groupes naturels qui sont utilisés dans d'autres formes de taxonomie qui ne forment pas des clades. Et par exemple, les reptiles. Vous voyez ici des reptiles, il y en a un petit peu partout dans cet arbre-là. Si on veut trouver l'ancêtre commun de tous les reptiles, on se retrouve tout en bas de l'arbre, et c'est l'ancêtre commun aussi des mammifères et des oiseaux. Donc ça ne répond pas à la définition d'un clade, puisqu'il y a des espèces qui ne sont pas des reptiles et qui sont aussi les descendants de l'ancêtre commun de tous les reptiles. Donc ce n'est pas un clade. Voilà. Ceux qui savent ce que c'est, trouvaient que c'était mal expliqué. Voilà, donc c'est une méthode de taxonomie qui est évolutive. Et au British Museum, lors de cette exposition, il était clairement annoncé que c'était leur méthode. À l'appui de ça, il y avait un petit livret qui disait, voilà, on utilise la méthode cladistique et les hypothèses pour utiliser cette méthode-là sont d'abord que les nouvelles espèces apparaissent quand une espèce se sépare en deux. Alors, ici, on voit ça dans les nœuds. Dans les nœuds, il y a une espèce et puis elle se divise en deux parties de l'arbre. Ça veut dire qu'une espèce ancienne s'est séparée en deux. Du coup, ben voilà, ça fait cette séparation en deux des espèces. Toutes les nouvelles espèces apparaissent comme ça. Du coup, on peut vraiment classer les espèces de cette façon-là. Une deuxième hypothèse qui a fait bondir Alsted, c'était que on suppose que aucune de ces espèces sont considérées comme les ancêtres l'une de l'autre. Alors ça, c'est assez important de représenter l'évolution comme ça, parce que toutes les espèces actuelles, au moins quand on représente les espèces actuelles, donc les espèces actuelles, elles portent autant d'évolutions, toutes, les unes que les autres. Elles ont subi exactement le même temps d'évolution, c'est-à-dire que aucune ne descend l'une de l'autre. On ne peut pas dire que, par exemple, les humains descendent des chimpanzés ni des poissons, parce que ce serait aussi faux que de dire le contraire, que de dire que les poissons descendent des humains. En fait, les deux et toutes les espèces actuelles ont le même temps d'évolution et descendent des ancêtres, des espèces ancestrales qui sont représentées par les nœuds plus profonds ici dans les arbres. En visitant l'exposition, Alsted a aussi vu que les commissaires donc estimaient que l'Homo erectus, qui est un humain fossile, n'était pas l'ancêtre de l'Homo sapiens. Alors ça l'a scandalisé aussi parce que lui il pensait le contraire, mais pas seulement pour une question de bête controverse scientifique. Après tout, on a le droit de penser l'un ou l'autre et puis de donner des arguments à l'un ou l'autre, mais la question n'est pas si anodine que ça, parce que finalement, c'est ça, c'est cette ancestralité de placer l'Homo erectus comme un ancêtre de l'Homo sapiens ou de le placer comme un cousin qui fait la différence pour lui entre une présentation marxiste ou stalinienne ou tout ce qu'on veut ou une bonne présentation selon lui. La raison pour laquelle il pensait ça, c'est que si dans les représentations de la classification des espèces on ne place plus les relations de descendance entre une espèce ancestrale et une autre, déjà, on met l'évolution sur un plan théorique, parce que l'évolution n'est plus une observation. Si on a les espèces ancestrales et qu'on a les espèces actuelles, on peut regarder l'évolution entre les deux. Si on n'a plus du tout les espèces ancestrales, l'évolution c'est plus un fait qu'on pourrait observer, c'est simplement une déduction théorique de la présence des espèces actuelles. On doit en déduire l'existence des espèces ancestrales, mais sans jamais les observer. Alors ça déjà ça le gênait parce que ça donnait du grain à moudre à tous les opposants de l'évolution, mais c'était pas la seule raison. C'était aussi que cette absence des ancêtres dans les fossiles tels que les présentait le British Museum, c'était la façon de présenter des catastrophistes. Et c'est là qu'on en vient à notre sujet. Et ces catastrophistes pensaient que l'évolution n'était pas justement une lente progression des ancêtres vers les descendants, avec des petits changements graduels, mais des successions d'équilibres. Et à l'issue d'une longue période où les espèces sont relativement stables, une grande catastrophe qui fait s'éteindre un grand nombre d'espèces et la naissance d'un nouvel équilibre derrière ça. Et alors c'est ça qu'il appelait une vision marxiste ou de l'histoire, et puis il mettait Staline aussi dans le... dans son article, parce que c'était la théorie de marxiste classique qui disait que les changements qualitatifs entre une société et une autre ne pouvaient pas se faire graduellement, mais avaient besoin d'une révolution pour passer d'un état à un autre. Par des petits changements graduels, on pouvait seulement changer un petit peu les conditions sociales, mais pas les changer drastiquement. Pour les changer complètement, il fallait une grosse catastrophe. Alors, on appelait ça une catastrophe dans l'histoire de la vie, et puis on appelle ça une révolution dans l'histoire des sociétés. Et c'est du coup la version de Halsted pour les théories marxistes qui lui fait penser qu'on ne devrait pas présenter l'histoire de la vie comme une succession de catastrophes, parce que ça donnerait du crédit à des théories qui diraient que on ne peut pas passer d'un état du monde à un autre sans passer par un grand bouleversement, et ça appuierait les théories marxistes. Alors, ça a donné une grosse polémique, cet article, à l'époque. Ça a l'air un petit peu tiré par les cheveux comme raisonnement, quand même, que cette simple présentation cladistique qu'on ne puisse pas penser que Homo erectus est l'ancêtre ou pas l'ancêtre d'Homo sapiens sans être immédiatement catalogué. Maintenant, au vu de certains débats antérieurs, c'est pas complètement infondé. Alors, sa vision est quand même tirée par les cheveux, parce qu'effectivement, on peut être à la fois, et aujourd'hui on a fait la synthèse entre les deux, on peut être à la fois cladiste et gradualiste, c'est-à-dire on peut avoir cette représentation de la taxonomie des espèces et de l'évolution tout en plaçant des ancêtres, même s'ils sont hypothétiques, même si on les a jamais observés, on peut les reconstruire et puis observer l'évolution graduelle entre les deux, c'est pas antinomique, mais cette antinomie-là, elle a quand même quelques fondements dans l'histoire dont je vais parler un petit peu ici. Alors, ça commence ça commence 200 ans plus tôt, par une autre polémique entre deux scientifiques français, cette fois-ci, qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle, encore un muséum, mais cette fois-ci de Paris. C'est Cuvier et Lamarck. Alors, ouais, merci. Je passe. Et voilà, les voilà. Alors, Cuvier et Lamarck, c'est deux biologistes qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, parce que c'est Lamarck, l'inventeur du mot biologie, donc on ne pouvait pas appeler les biologistes à l'époque par ce nom-là, mais il était quand même au Muséum d'Histoire Naturelle. Cuvier, c'était un paléontologue, peut-être le premier de tous les paléontologues, c'est-à-dire que il est, je pense, le premier à avoir récolté sur les fossiles une très grande quantité d'informations et à les inclure dans une théorie de l'histoire de la vie. Mais cette théorie de l'histoire de la vie, c'était il y a 200 ans, donc là c'est plus des controverses entre les évolutionnistes. L'évolution n'était pas évidente il y a 200 ans, hein, c'était 50 ans avant Darwin, avant la publication de Darwin, qui est donc On parlait d'évolution, mais ce n'était pas du tout une évidence, l'évolution à l'époque. Donc Cuvier n'était pas évolutionniste. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas que les espèces pouvaient se transformer. Il ne pensait pas qu'une espèce, au cours du temps, pouvait se transformer en une autre. Il pensait qu'il pouvait y avoir des petites variations, mais que qualitativement, une espèce restait la même au cours du temps. Et pourtant, c'était un spécialiste des fossiles. Et un grand connaisseur des fossiles. Il connaissait quasiment tous ceux qui étaient connus à l'époque. Il faisait de l'anatomie comparée avec. Alors, il ne faisait pas que ça, il faisait aussi beaucoup de politique. Il était à l'Académie française, il était au Conseil d'État. Il était assez proche des milieux politiques, ce qui lui sera reproché, en particulier dans ses controverses avec Lamarck, justement, où on lui reprochait de prendre l'ascendant sur Lamarck grâce à ses appuis politiques. Mais voilà, lui, il était fixiste, donc, mais catastrophiste. C'est-à-dire qu'il pensait que les fossiles étaient des traces d'espèces disparues et qu'on pouvait reconstituer avec ces fossiles des mondes disparus, ce qui reste vrai aujourd'hui, mais pour lui, ces mondes avaient complètement disparu au cours de catastrophes. Et à la fin de chaque catastrophe, il y avait une régénération, la vie réapparaissait à nouveau. Et il y avait eu une succession dans l'histoire du vivant de catastrophes avec disparition d'espèces à chaque catastrophe et réapparition juste après. Et on pouvait faire une histoire de cette façon-là. Lamarck, lui, c'était son contemporain, il était un petit peu plus âgé, mais il avait une théorie complètement différente. Il était partisan du transformisme, lui, et il pensait que les espèces pouvaient se transformer les unes dans les autres, et par contre, il pensait que les fossiles n'étaient pas des traces d'espèces disparues, et il pensait qu'il n'y avait pas d'espèces disparues. Tout ça parce que, dans sa théorie, c'était une théorie très gradualiste, et dans laquelle les préceptes dont je vous ai parlé de la cladistique n'étaient pas appliqués puisque les ancêtres des espèces actuelles vivaient toujours aussi actuellement. Par exemple, les ancêtres des humains étaient les singes actuels, les ancêtres communs des singes et des humains étaient les poissons actuels, et comme ça il y avait une échelle d'ancienneté des espèces. Les invertébrés étaient très anciens, et puis petit à petit, il était apparu des espèces de plus en plus évoluées, tandis que certaines s'arrêtaient d'évoluer. Et les fossiles, quand ils voyaient un fossile et qu'ils ne voyaient pas l'équivalent sur la Terre, ils disaient bon, c'est parce qu'on n'a pas trouvé tous les fossiles encore, on n'a pas exploré toutes les, on n'a pas trouvé toutes les espèces actuelles encore, on ne les connaît pas toutes, on va sans doute trouver des équivalents. Ce qui l'intéressait, c'était de classer de façon graduelle les espèces et les fossiles, mais pour lui c'était les mêmes espèces sur une échelle de temps et sur une échelle des êtres, en terminant évidemment par l'humanité. Ce qui n'était pas du tout la vision de Cuvier, lui il n'avait pas du tout cette vision d'échelle des êtres, donc c'était vraiment deux visions antagonistes. L'évolution d'un côté de Lamarck et le catastrophisme d'un autre côté de Cuvier. Alors, qu'est-ce que... Là aussi, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on peut se dire, mais c'est facile de concilier les deux, il suffit d'avoir une évolution où les espèces disparaissent. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. C'était soit l'évolution, soit le catastrophisme. Alors, à l'issue de ce débat, à l'époque, c'est plutôt Cuvier qui a eu l'avantage. Lamarck a été un petit peu ridiculisé, un petit peu oublié. Aujourd'hui, il est assez fréquent qu'on en veuille un petit peu à Cuvier pour tout ça, parce que parce qu'il a volé à la France la découverte de l'évolution. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde ne jure que par Darwin quand on parle d'évolution, alors que à cette époque-là, il y avait déjà Lamarck qui l'a défendu, et c'était 50 ans avant Darwin. Bon, en fait, C'est peut-être pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, puisque l'évolution telle que la voyait Lamarck, c'était quand même une évolution du type que je vous ai dit, c'est-à-dire une évolution. Il y avait effectivement une transformation des espèces, mais avec un mécanisme qui complexifiait de plus en plus les êtres vivants, qui donner aux espèces actuelles des ancêtres qui sont aussi des espèces actuelles, donc qui faisait une échelle linéaire entre les espèces actuelles, une vision qui a été complètement abandonnée aujourd'hui. Voilà, par contre, ça donne un éclairage sur des débats sur l'évolution, parce que c'était un débat donc entre un évolutionniste. Là aussi, le terme est un peu anachronique parce qu'on ne disait pas évolutionniste à l'époque, on disait transformiste, et Cuvier qui était un fixiste. Mais donc il y avait un débat entre les évolutionnistes et un anti-évolutionniste, mais c'était un débat qui était quand même complètement scientifique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser que les opposants à l'évolution sont systématiquement des gens qui ont des arrière-pensées religieuses. Ici, ce n'est pas le cas. Même si les deux avaient leur rapport à la religion, mais c'est quand même un débat qui s'est passé à coup d'arguments scientifiques. Savoir par exemple si on trouve pas pour un fossile d'équivalent d'une espèce, c'est parce que cette espèce est disparue ou c'est parce que cette espèce on va la trouver parce qu'on n'a pas encore exploré tous les continents. Cuvier lui était persuadé que on avait trouvé quasiment tous les fossiles, on connaissait quasiment tous les animaux, et que du coup on pouvait construire une théorie là-dessus, et que cette théorie ne pouvait pas être la théorie de l'évolution parce que il aurait manqué les fameux chaînons manquants, les formes intermédiaires justement. Cuvier arrivait à classer les fossiles. Dans des espèces disparues, mais ils ne trouvaient jamais les fameux intermédiaires entre les espèces actuelles qui nous auraient montré par l'observation qu'il y a bien un ancêtre commun entre deux espèces actuelles. Du coup, il en déduisait qu'il n'y avait pas d'évolution. Et les évolutionnistes avaient l'habitude de dire bon, bah, c'est parce que le registre fossile est insuffisant qu'on n'en trouve pas encore, on ne va pas tarder à en trouver de ces espèces intermédiaires pour que l'évolution soit enfin un fait prouvé et pas seulement quelque chose d'hypothétique. Alors, je finis là-dessus parce que c'est pas anodin cette histoire de fossiles qu'on trouve ou qu'on trouve pas. Ces ancêtres, ces formes intermédiaires, hein, qui feraient que cet Homo erectus par exemple, qui serait l'ancêtre d'Homo sapiens et qui nous donnerait enfin une observation de l'évolution en marche et pas seulement des espèces apparentées dont il faudrait supposer l'existence de l'ancêtre commun. Ça a été un problème longtemps. Il se trouve que ces formes-là sont assez rares. Bon, les paléontologues ont fini par en trouver quand même quelques-unes, mais de façon assez rare, ces formes intermédiaires ne sont pas si courantes. Il y en a quelques-unes. Les opposants à l'évolution trouvent que ça manque toujours. Et le débat a continué là-dessus. Quand tous les scientifiques ont accepté finalement l'évolution et les mécanismes darwiniens pour expliquer l'adaptation des espèces, il y a eu des controverses sur ce manque d'état intermédiaire. Et la dernière controverse dont je vais parler, c'est celle entre les évolutionnistes. Alors, je vais passer ça aussi, voilà. Gould et Dawkins. Gould a commencé le débat avec Eldredge en disant bon, il serait temps de plusieurs siècles après, enfin plus d'un siècle après les premières analyses des fossiles, de se dire, bon, il manque vraiment quelque chose avec ces fossiles transitionnels, on manque d'états intermédiaires, on manque de fossiles qu'on pourrait placer sur les branches de l'arbre qui nous sert à faire de la cladistique. Et il serait temps d'avoir une théorie de l'évolution qui tienne compte de ce manque. Alors, les évolutionnistes gradualistes n'étaient pas d'accord. Ils pensaient que si ça manquait, ben, c'était parce qu'on ne les avait pas encore trouvés. Ils comptaient sur les découvertes futures. Gould pensait qu'il fallait s'arrêter de s'appuyer sur des découvertes futures et proposer une théorie avec les fossiles qu'on avait maintenant. Et la théorie qu'il a proposée, c'est celle dont je vous parlais au début, c'est-à-dire ce qu'on appelle les équilibres ponctués, qui fait une espèce de mélange entre la théorie de Lamarck et la théorie de Cuvier, c'est-à-dire on prend l'évolution à Lamarck, les espèces se transforment, mais on prend le catastrophisme à Cuvier, c'est-à-dire les espèces peuvent rester stables pendant un long moment, ce qui explique le registre fossile, puis des catastrophes arrivent qui font éteindre les espèces, et celles qui ne sont pas éteintes doivent s'adapter rapidement, qui provoque une transformation et une évolution rapide à ce moment-là. Ce qui donne une vision de l'histoire du monde qui n'est pas graduelle, mais pleine de catastrophes. Pour revenir au début, comme par hasard, Gould, c'était quelqu'un d'américain qui était plutôt marxiste, et Dawkins, qui s'opposait à cette théorie-là des catastrophes, c'est un Anglais plutôt social-démocrate qui a été élevé dans le protestantisme. Et donc, ça cadre bien avec... leurs idées et leur environnement cadrent bien avec la façon dont ils voient... qui voit l'histoire de la vie. Alors, aujourd'hui, le catastrophisme a plutôt décliné, c'est plutôt le gradualisme qui est en vogue, mais je passe la parole à Vincent.
Voilà, donc, en fait, effectivement, la théorie actuelle de l'évolution, c'est une théorie qui est, en grande partie gradualiste, mais qui a incorporé les événements catastrophiques. Et donc, pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Eric et représenter un petit peu le débat catastrophisme qu'on a appelé catastrophisme uniformitarisme, à l'époque de Cuvier, un de ses grands opposants qui a pris la tête de la bataille contre le catastrophisme, c'est Charles Lyell, qui était en fait un géologue et qui a défendu l'idée, défendu un principe qui a été très utile à la construction de la science géologie, qui est le principe selon lequel le présent est la clé du passé. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye d'expliquer l'histoire de la planète, il faut éviter au maximum, selon lui toujours, d'invoquer des causes qui ne sont pas des causes qu'on peut observer actuellement dans la nature. Donc il faut à tout prix ne pas invoquer des causes extraordinaires dans la formation des structures géologiques. Donc ça voulait dire... en particulier quand on invoque une catastrophe, quand est-ce que vous avez vu une catastrophe la dernière fois qui a redistribué toutes les cartes du vivant? Du vivant de Lyell, c'était pas arrivé une mémoire d'homme, et donc il n'y avait vraiment aucune raison d'invoquer ce mécanisme extraordinaire qui était en particulier, en fait, dans une certaine version du catastrophisme, liée à des catastrophes divines, suivies de créations divines, et en particulier dans certaines versions du catastrophisme, la dernière catastrophe qui a redistribué les cartes, c'est le déluge. Et donc, c'était une des versions qu'il fallait, enfin, qui rendait un petit peu ridicule la théorie du catastrophisme. La dernière catastrophe qui aurait changé toutes les espèces vivantes sur le globe aurait été le déluge. Donc, c'était un peu. Et Darwin a vraiment repris ce principe. C'était un ami de Lyell et il a vraiment repris ce principe pour la théorie de l'évolution. Et c'est un principe qui est clé dans la théorie de l'évolution. Cette idée que les mécanismes sont toujours les mêmes. Les mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, c'est les mécanismes qui expliquent l'évolution du vivant dans toute sa longueur. Et donc, jusque dans les années 80, tout ce qui était théorie catastrophiste était vu comme un peu ridicule. Et le dogme, c'était que à la fois la planète et le vivant avaient évolué de manière très graduelle. Et comme l'expliquait Eric, les transitions qu'on pouvait voir dans les couches géologiques ou les changements qu'on pouvait voir, en fait, étaient attribués uniquement aux lacunes des archives fossiles. D'accord ? C'est quelque chose qui est assez facilement défendable. C'est difficile de trouver un fossile. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé un fossile. Sans doute. Enfin, peut-être, mais je ne pense pas que c'était un tyrannosaure. Si vous l'avez trouvé, mais en tout cas, voilà, ces formes-là, c'est des choses qui sont très difficiles à trouver, et donc c'est facile d'invoquer leur rareté pour dire, voilà, en fait, ce qu'on voit de l'histoire du vivant, c'est très très lacunaire, et donc il n'y a pas de raison d'imaginer ces grands événements catastrophiques qui changeraient les choses. Et puis dans les années 80, ça a un peu changé. Et là, la manière dont on raconte l'histoire, souvent, vous l'avez peut-être déjà vu relatée dans des livres. Gould a écrit sur cette histoire, d'autres gens ont écrit sur cette histoire. En fait, c'est un monsieur et son fils qui s'appelait Alvarez. Qui s'intéressait à la géologie et notamment au processus de sédimentation, qui ont observé que dans une transition géologique entre deux aires, donc vous savez que les géologues représentent l'histoire de la planète par des strates successives qui correspondent à des époques et qui ont des noms qui sont liés à ces époques. Et alors, il s'intéressait à une transition particulière qui est la transition entre une époque qui s'appelle le Crétacé et une autre qui s'appelle le Tertiaire. Et là, entre ces couches, ils ont découvert une grande quantité d'iridium. Là, c'est la petite couche noire qu'on voit, quand je dis une petite couche noire, ici, là, il y a un opinel, là, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez épais. Ils se sont rendus compte que c'est un métal rare, qu'on ne s'attend pas du tout à trouver dans la croûte terrestre, et c'est en fait un métal dont on estime qu'il est abondant dans le noyau terrestre, et qu'il est abondant aussi dans les astéroïdes. Alors, ça c'est significatif parce que la transition Crétacé-Tertiaire, donc vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est l'événement à la fois géologique et évolutif le plus célèbre qui soit. C'est l'événement qui voit la disparition soudaine d'un grand nombre d'espèces, et en particulier des dinosaures. Donc T-Rex, qui est là, n'a pas survécu à cette transition. Donc dans les archives fossiles, on voit des T-Rex, on en voit pas forcément des masses, mais et puis après dans le tertiaire c'est fini, il n'y a plus de T-Rex. Et puis c'est le cas pour tout un tas d'espèces, en fait des espèces très variées, pas seulement des gros animaux en fait, des espèces marines, des espèces terrestres, des plantes, des animaux, des espèces en fait microscopiques et puis des grandes espèces. Il y a tout un tas d'organismes qui changent entre ces deux strates et donc ça paraît quand même comme un événement assez soudain. Et donc de par cette découverte de cette couche d'iridium dans les strates géologiques, Alvarez ils vont proposer que ce qui s'est passé, c'est qu'une météorite a percuté la Terre à ce moment-là, et que c'est ça qui est à l'origine de cette grande modification de la biosphère. Alors, depuis, on imagine plein de choses qui seraient liées à ça. Alors, je vous ai mis ici un cratère lunaire, voilà. Donc ça, c'est la surface de la Lune. Quand on regarde la surface de la Lune, on se rend compte que, en fait, des impacts de météorites, il y en a un paquet. Il y en a probablement très fréquemment. Il y en a eu très fréquemment, en tout cas, depuis l'origine de la Lune. Il n'y a pas de raison pour que la Terre soit pas sujette au même bombardement. Ce qui se passe, c'est que il y a tout un tas de choses qui se passent sur Terre qui vont effacer les traces de ces impacts. En particulier, vous savez que les plaques bougent sur la planète, donc éventuellement il y a de la tectonique, ça modifie de manière importante l'aspect de la Terre. Il y a de l'érosion, il y a de la vie, et tout ça, ça modifie pas mal les choses. Qu'imaginent les gens à partir de ce moment-là, ceux qui défendent l'idée qu'il y a effectivement eu un impact météoritique à ce moment-là, c'est que il y a tout un tas de conséquences. On peut imaginer que quand il y a une météorite qui rentre en collision avec la planète, selon sa taille, on peut avoir tout un tas de choses. Et donc il y avait des gens qui montrait qu'il y avait associé à cette transition une activité volcanique exceptionnelle, probablement. Et donc on peut imaginer que cet impact météoritique peut avoir provoqué un volcanisme à l'échelle planétaire, enfin le réveil de tout un tas de volcans. Donc quelque chose d'analogue à un hiver nucléaire, c'est-à-dire de par d'abord l'impact et puis de par ce volcanisme, une grande quantité de poussière dans l'atmosphère qui va finalement aboutir à un refroidissement global, une diminution du niveau des océans parce que refroidissement global, augmentation des calottes glaciaires, etc., diminution des niveaux des océans, du coup tout ce qui vivait sur les côtes disparaît. Donc finalement, dans une période très courte, on peut envisager des changements suffisamment drastiques pour que tout un tas d'organismes se trouvent complètement mésadaptés à cette situation et donc s'éteignent de manière massive.
Donc c'est une idée qui a été pas mal discuté dans la décennie 80, et puis en 90, il y a quelque chose qui a une découverte qui a été faite, qui a, pas mal clos le débat, qui est finalement la découverte d'un cratère dans le Yucatan, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, du Chicxulub, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne sais pas s'il y a des Mexicains, des gens qui dans la salle, du cratère Chicxulub, qui est un cratère en fait qui correspondrait à l'impact d'une météorite d'environ 10 km de diamètre. Donc voilà, ça fait un très grand cratère d'à peu près 180 km de diamètre. Donc, je dirais qu'à partir de ce moment-là, l'hypothèse catastrophiste, l'hypothèse de la météorite, alors c'est encore un petit peu débattu. Il y a en fait surtout un débat sur l'idée que cette grande extinction serait plurifactorielle. Personne ne discute l'idée qu'il y a eu cet impact effectivement, mais il y a des gens qui disent oui, mais bon, il y avait pas mal des lignées qu'on voit s'éteindre qui étaient déjà mal en point à l'époque, et donc la météorite c'était un coup de grâce. On discutera peut-être un petit peu de ça par rapport aux autres catastrophes, mais disons qu'à partir de ce moment-là, je dirais, on a commencé vraiment à complètement admettre qu'il y avait des catastrophes énormes qui pouvaient arriver au cours de la vie. Et en fait, aujourd'hui, on reconnaît 5 extinctions de masse dans l'histoire du vivant, 5 grandes extinctions de masse. Alors, quand on dit dans l'histoire du vivant, juste sur extinction de masse, en fait, on reconnaît plein d'extinctions, et puis elles sont classifiées de manière un petit peu arbitraire, selon la proportion d'espèces qu'on voit disparaître à un moment donné. Il y a des petites, des moyennes et des grandes. Des très grandes, on les classifie comme ça, et on dit qu'il faut qu'il y ait au moins 65% des espèces qui disparaissent. Et donc il y en a 5 qui sont admises et reconnues au cours de l'histoire du vivant. Et donc je vous disais, l'histoire du vivant, c'est un petit peu exagéré de dire ça, parce que vous voyez ici, cette histoire du vivant, elle commence à 540 millions d'années. Ça, c'est, bon, disons, très grossièrement, le dernier dixième de l'histoire de la planète. Disons le dernier neuvième, il y a 8 neuvièmes de l'histoire de la planète pour lesquels finalement on n'a pas de données pour vraiment comprendre s'il y a eu des catastrophes de cet ordre. La raison pour laquelle on ne sait pas, c'est parce que avant ça, la vie est essentiellement microscopique. Et puis, des choses qui laissent très peu de fossiles. Et puis, finalement, plus on remonte dans le temps, et moins on a de chance de trouver des fossiles bien conservés. Bon, il y a 5 grandes crises, 5 grandes extinctions de masse qui sont reconnues. Une première... qui correspond à... Bon, alors vous pouvez lire, je suis désolé à traduire en anglais, mais qui se passe à la fin de l'Ordovicien, où on estime que 50% des familles d'animaux ont disparu. Alors, c'est un peu compliqué cette histoire de critères, parce que, bon, voilà, on dit il faut qu'il y ait au moins 65% des espèces qui disparaissent, et puis là, je vous parle de familles. Donc les familles, ce qu'on appelle des familles, c'est 1, et Eric vous a parlé de cladistique, c'est un degré particulier des relations entre espèces. Donc par exemple, nous on fait partie de la famille des hominidés, ça veut dire que ce qu'on appelle des hominidés, c'est... nous et puis les chimpanzés et les gorilles, ça correspond à une famille. Donc vous voyez, c'est un degré de classification du vivant. Donc là, une première extinction, une deuxième au Dévonien, un peu moins sévère, et puis une qui est vraiment très importante, qui est celle du Permien, où en fait là, on dit 60% des familles animales, on estime là qu'il y a à peu près 4% des espèces qui ont survécu à ce crash-là. À cette époque-là, il y a plus de 95% des espèces qui ont été décimées, de manière vraiment très brutale, enfin très, très rapide. C'est-à-dire que, en fait, la vie est passée à deux doigts d'être rayée de la planète, à ce moment-là. Au Trias, il y a une autre extinction massive. Donc, ça correspond donc à des extinctions d'un grand nombre d'espèces pour un temps très court. Et puis là, celle dont je vous ai parlé, celle du Crétacé, qui voit l'extinction des dinosaures et... qui voit l'extinction des dinosaures. On va le dire comme ça. Juste, je reviens sur la crise du Permien Trias, parce qu'elle est amusante. Enfin, elle est intéressante. Donc, vraiment, une très grande partie des espèces ont disparu.
Et on sait pourquoi.
À ce moment-là.
Le Crétacé, on sait si il est dehors, il était celle-là.
Alors, voilà, je vais vous en parler un petit peu. Non, mais... Donc voilà, je vous dis ça, je vous ai mis des choses comme ça pour montrer que ça correspond un peu à tout le monde. 81% des familles d'amphibiens, une grande partie des reptiles, dont les pélycosaures. Alors, les pélycosaures, ils sont intéressants parce que, en fait, c'est des reptiles qui sont apparentés aux mammifères. 50% des animaux marins. Donc voilà,
c'est des choses que je vous ai déjà dites.
Alors, il y a des gens qui ont proposé que ça pourrait être une météorite, mais en fait on voit vraiment rien dans les archives fossiles qui défendrait cette idée-là. Par exemple, on ne voit pas d'iridium, ou alors vraiment... de manière anecdotique, donc c'est difficile d'envisager ça. Et alors c'est visiblement des causes assez complexes qui auraient créé ça: activité volcanique, changement climatique, formation de la Pangée. Donc, vous savez que à l'époque, vous savez que la Terre n'a pas toujours été dans la conformation dans laquelle elle est en ce moment. Et à l'époque, en fait, les continents étaient organisés en un seul supercontinent qu'on appelle la Pangée. Et ça, la conséquence que ça a, c'est que ça fait que ça réduit de manière significative le nombre de côtes qui existent. Et les côtes, c'est vraiment une source de biodiversité vraiment très très importante. Donc dans ces régions de la planète où les eaux sont suffisamment peu profondes, eh bien là, on a une vie qui fourmille. Si vous allez au fond de l'océan, si vous vous éloignez des côtes, là, vous allez trouver vraiment une biodiversité assez réduite. Et puis, voilà, ça correspond en fait à une réduction des niches écologiques de la biodiversité marine. Alors, donc je vous ai dit, c'est pas très très clair. La raison, en tout cas pour moi, la raison pour laquelle il y a eu ce réchauffement. Là, je vous montre le résultat d'un papier assez récent qui utilise des marqueurs isotopiques. Enfin, je vous passe les détails. Pour estimer la température des océans, notamment, et puis de la Terre, enfin des zones émergées, sur la planète à cette époque-là. Et en fait, visiblement, on est passé par une période où, dans cette zone tropicale, les eaux pouvaient atteindre 40 degrés centigrades. Donc ça, c'est en fait c'est une température extrêmement élevée, et c'est une température en particulier où, où plein d'organismes ne peuvent pas survivre, et où en particulier la photosynthèse ne peut pas se faire. Donc, c'est-à-dire la consommation du CO2 et la production d'oxygène. Et ça, c'est de nature à avoir, enfin, disons qu'on peut envisager un processus autocatalytique où, en fait, vous voyez, vous pouvez plus vous débarrasser du CO2 et du coup, vous avez un effet de serre très important. Donc, bon, l'idée, le scénario, c'est il y a eu un réchauffement dont on ne sait pas très bien pourquoi il aurait eu lieu, peut-être à cause du volcanisme, et que la machine se serait emballée et que des gaz à effet de serre, donc notamment du méthane et du CO2, se seraient retrouvés dans l'atmosphère en concentration extrêmement élevée, et donc on serait retrouvé avec une atmosphère très très chaude, et donc ces conditions-là. Alors là, ce que montre cette carte, c'est que en fait, quand on regarde bien les archives fossiles, on se rend compte que des fossiles, on n'en trouve quasiment pas de cette époque dans cette région hein, qu'ils appellent la Dead Zone, et que par contre, quand on s'approche des pôles, on se remet à trouver des organismes vivants, donc qui sont dans des régions beaucoup plus tempérées. Vous voyez qu'il y aurait une partie de la Terre qui aurait été quasiment inhabitable. Alors, je vous ai parlé d'extinction, mais bon, faut discuter un peu de ça, du fait que voilà, il y a des perdants, mais il y a des gagnants quand on a une extinction de masse comme ça. Hein, donc ça correspond à une redistribution des cartes, mais finalement complètement par l'aléatoire ou avec une grosse dose d'aléatoire. Donc dans un livre assez célèbre qui s'appelle La vie est belle, Gould imagine cette idée où il dit évidemment l'évolution c'est de la sélection naturelle, mais de temps en temps on a des événements complètement imprévus qui correspondent pas du tout à des choses pour lesquelles les organismes peuvent ou non être adaptés, qui viennent complètement brouiller les cartes. Et donc il propose cette expérience dans ce livre dans lequel il dit cette expérience qui serait de redérouler le film de l'évolution. Il dit en fait, si on repartait il y a disons 3,5 milliards d'années à l'origine du vivant et qu'on redéroulait le film de la vie, le fait qu'il y ait ces événements complètement imprévisibles qui se passent de temps en temps au cours de l'évolution de la planète, ça fait que aujourd'hui, en 2013, on arriverait à un résultat complètement différent. Donc, c'est une idée importante que l'évolution, c'est vraiment un processus historique et complètement imprévisible. Et donc, qu'on ne pourra pas le reproduire. C'est ça que ce dessin... essaye d'exprimer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir cette vision-là d'évolution où on a globalement une augmentation de la diversité, un processus régulier, Et puis, vous avez cette vision-là où vous avez votre arbre, votre bonsaï, et puis de temps en temps, il y a un jardinier fou qui arrive et puis qui coupe des branches partout, et puis qui en laisse quelques-unes au hasard. Et c'est ça qui va donner votre arbre pour les
millions d'années à venir. Et donc, je vous ai parlé de 5 extinctions.
Et de cinq événements d'extinction massive. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette idée que, on est en train de vivre le sixième de ces événements d'extinction de masse, et que probablement c'est l'homme qui est responsable de ça. Alors. Là, je vais vous montrer quelques résultats de quelques papiers récents qui réfléchissent à cette idée, en fait, qui essayent de regarder si effectivement les données supportent cette idée. Alors, il y a deux échelles de temps auxquelles on peut regarder. La première, c'est sur les 100 000 dernières années. Alors 100 000 ans, ça correspond au moment où l'espèce Homo sapiens est partie, enfin disons où les hommes, pour la dernière fois, il y avait eu d'autres tentatives avant, sont partis de l'Afrique pour coloniser pour finir par coloniser l'ensemble du globe. Et donc, je ne sais pas si vous voyez cette carte-là. Ça, c'est une carte qui se base sur tout un tas de données, en particulier des données génétiques des populations actuelles et des modèles assez complexes, mais aussi des données fossiles, etc., qui en fait datent de manière assez précise la manière dont les hommes se sont répandus sur la planète. Donc, vous voyez, à 100 000 ans, on est en Afrique, à 40 000 ans, on est en Europe, donc moi, c'est moins 40 000 ans. Hein. Donc, alors, en fait, on commence par aller vers par l'Asie, en fait. 50-60 000 ans, on est en Asie, 40 000 ans, on est en Europe et on est en Australie. Et puis, l'événement qui. L'arrivée en Amérique, c'est un événement qui est beaucoup plus récent, qui est plutôt entre 15 000, c'est assez variable, entre 15 000 et 35 000. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on essaie de corréler ces données aux données d'extinction des espèces, en fait, on voit que finalement, une corrélation assez. Il y a une corrélation assez importante entre l'arrivée de l'homme sur un continent et l'extinction de ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire tous les organismes qui sont plus grands que un certain poids. Je crois que c'est un peu une définition ad hoc, ça doit être autour de 40-50 kilos. Donc en fait, c'est tous les grands animaux. En fait, systématiquement, à chaque fois... disons les choses comme ça. Dans les 150 000 ans, entre moins 150 000 ans et moins 10 000 ans, sur les 150 genres d'animaux mégafoniques, de la mégafaune, qui étaient décrits, il y en a 97 qui ont été décimés, donc éteints, plus de représentants actuels. Et ça corrèle, bon alors de manière compliquée, mais ça corrèle assez bien avec l'arrivée de l'homme sur les différents continents. Donc là, vous voyez, en fait, dans ce papier-là, qui est assez prudent, ils évaluent des causes d'extinction possibles, hommes, climat, et puis données insuffisantes. Donc vous voyez que en Australie, et puis ici en Amérique du Nord, c'est plutôt rouge, donc les données sont assez convaincantes sur l'hypothèse d'une origine anthropogénique de la disparition de ces espèces. Et puis là, on est entre le bleu et le rouge, et puis là, on n'est pas trop sûr. Bon, mais globalement, donc vous voyez là les petits points verts, là, tous ces petits points verts, c'est des petits points qui disent que on a une évidence classifiée comme robuste, une preuve qui considère comme robuste du fait que l'extinction d'un groupe est liée à la présence de l'homme. Donc ça, c'est plutôt de l'histoire ancienne, c'est-à-dire on imagine l'homme chasseur-cueilleur nomade qui arrive, qui suit les animaux finalement, qui se déplace pour chercher des nouveaux animaux à chasser, et puis qui, de par ses techniques de chasse, est en fait capable de surchasser des animaux au point d'arriver à leur extinction. Ah oui, je voulais juste dire ça aussi. Il y a quelque chose d'assez important qui est décrit. C'est ce qui s'est passé dans les îles de Céline, hein, en Nouvelle-Zélande et puis en Nouvelle-Calédonie, etc. et dans toutes ces îles d'Indonésie. C'est l'extinction d'un très grand nombre d'espèces d'oiseaux. Alors en fait, là, il y avait toute une diversité d'oiseaux. Bon, je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns. Vous connaissez sans doute celui-là, hein, c'est le dodo. Il y avait tout un tas d'espèces d'oiseaux plus ou moins grands. Certains étaient géants, c'était des oiseaux coureurs, donc incapables de voler. Et là, on estime qu'il y a près de 8000 espèces d'oiseaux qui auraient disparu de par la chasse et la présence de l'homme. Donc là, ce que je vous disais, c'est de l'histoire assez ancienne, et c'est donc voilà, c'est ce scénario du chasseur-cueilleur nomade qui très performant à la chasse et qui finalement est capable de décimer des populations entières d'animaux. Au passage, vous voyez que le mythe de l'homme primitif en harmonie avec la nature en prend coup. Là, je vous présente un autre papier qui parle non pas là des migrations d'il y a quelques milliers d'années, des migrations humaines sur la planète, et qui parle pas seulement de la mégafaune, c'est-à-dire des animaux qui sont potentiellement soit des proies, soit des compétiteurs pour la chasse, qui parle de tout un tas d'animaux, vous voyez, des gastéropodes, des bivalves, des amphibiens, etc., qui regardent l'extinction de ces animaux sur les 500 dernières années. Ça, c'est une histoire très récente. Bon, alors on sait que l'activité humaine perturbe les biotopes, hein. Les hommes, en s'installant, en se développant, vont prendre les ressources, fragmenter les habitats. Ils font souvent de l'introduction d'espèces, étrangères et de pathogènes. Alors, de manière volontaire ou non, mais c'est des choses dont on sait que ça peut perturber de manière très très importante les écosystèmes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des lapins d'Australie ou ou des choses comme ça, donc d'introduction d'animaux dans un milieu dans lequel ils n'ont jamais évolué, ils n'ont jamais été présents, et à ce moment-là, souvent, on peut arriver à des résultats assez catastrophiques. Bon, la chasse, la modification du climat. Et donc là, ce qu'ils font dans ce papier, c'est qu'ils comparent le nombre d'extinctions ou d'espèces en danger d'extinction entre elles. Et puis, là, vous avez, en fait, ça, c'est des pourcentages d'espèces éteintes. Et ça, vous voyez ça sur une période de 500 ans ici. Et là, vous êtes en train de comparer ça aux grands événements, le 5 mass extinction, donc aux 5 grands événements d'extinction qui sont passés au cours du vivant. Alors, c'est des données qui sont difficiles à alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas très facile à comparer parce que un événement d'extinction de masse, c'est un événement dont on dit... c'est un grand nombre d'espèces qui disparaissent dans un temps court. Mais quand on dit un temps court, c'est un temps court à l'échelle géologique. Et à l'échelle géologique, on n'est pas capable de voir, si on est en train de regarder l'extinction sur 500 ans, on ne sait pas si en fait les dinosaures, il leur a fallu 500 ans, 2000 ans ou 1 million d'années pour s'éteindre, ou des centaines de milliers d'années. Pour s'éteindre, c'est très très difficile de savoir ça. Mais donc là, voilà, on a une comparaison d'un processus qui prendrait 500 ans. Et puis après, je vais juger si vous pensez qu'il a fallu 500 ans pour éteindre les dinosaures. Donc voilà, c'est une espèce de comparaison de la magnitude des événements de cette disons un potentiel sixième extinction avec les cinq autres. Alors ce que calculent les auteurs du livre là, enfin de l'article, c'est que pour arriver à ce niveau là, il faudrait à peu près 2000 ans au taux où on est. D'accord. Donc si on continue comme ça pendant 2000 ans, eh bien, on aura une phase d'extinction qui sera à peu près de cet ordre-là.
Ouais, j'avoue que c'est pas facile à expliquer. Qu'est-ce que vous...
Si on continue pendant 2000 ans, on arrivera à quoi ?
On arrivera au niveau d'extinction d'espèces qui est comparable aux autres extinctions de masse.
Aux autres 5 extinctions de masse.
Bon, alors ça, c'était juste une slide, je vous ai refroidi un peu. Juste une slide de conclusion pour dire que je vous ai parlé de plusieurs choses, de l'histoire du vivant, et du fait que cette histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu de nombreux épisodes d'extinction d'espèces simultanément, des petits, des moyens, des grands. Alors il y a des gens qui ont, je vous en ai pas parlé du tout, mais il y a des gens qui ont proposé qu'il existe une régularité dans ces périodes d'extinction massive, et en fait qui proposaient qu'il existe une période de 26 millions d'années. Tous les 26 millions d'années, on a des crises. D'extinction, on aurait des crises d'extinction, alors plus ou moins grandes, parce qu'en fait l'idée c'était que il reliait ça à des événements cosmiques, donc à l'idée que par exemple une comète passerait à proximité de la Terre tous les 26 millions d'années et que tous les 26 millions d'années on se prendrait un petit peu de sa queue. Voilà, avec des météores plus ou moins gros selon les fois où elles passent. Alors bon, ça c'est vraiment, il n'y a pas grand monde qui croit à ça, j'ai l'impression. Bon, enfin, je sais pas, Non, si, ça vous... Ouais, ok.
Je pense que bon, je vous ai dit, mais ça on peut en discuter, il y a peut-être des gens qui connaissent un peu ces choses-là, que depuis son expansion, l'homme est lié à l'extinction d'un grand nombre d'espèces, et que les taux d'extinction actuels, qui sont difficiles à comparer aux données paléontologiques, quand même, semblent suggérer qu'on est en train de vivre quelque chose qui pourrait être qualifié d'extinction de masse. Et je voulais voilà, vous rappeler que, y compris en France, on continue à éliminer nos compétiteurs. Vous avez sans doute déjà vu, enfin vous connaissez la notion de nuisible, d'espèce nuisible. C'est en fait souvent des compétiteurs de l'homme. Hein, il y a tout un tas d'espèces qui sont natives. Y compris de la France, qui sont plus les bienvenus sur le continent. Et puis voilà, c'est peut-être déjà vu ce genre de fiche, Grand Duc. Parmi ces quatre chasseurs se cache un nuisible, reconnaissez-le. Le Grand Duc, le Moyen Duc, le Petit Duc et le Trou Duc.
Voilà, c'est ma conclusion.